Chapitre 23. À partir de ce jour, l'image de Malabortance, blanche, immobile, avec le petit filet de sang le long de la joue, fut la compagne habituelle de Monique. Elle la suivait partout, au Douai, dans le jardin où elle passait de longues heures, dans les sentiers couverts, désormais pleins de fleurs et d'insectes. La sinistre vision s'interposait entre la jeune femme et la nature entière, empêchant toute joie innocente d'arriver jusqu'à elle. Ce n'était pas seulement le remords ni le chagrin, comme précédemment. C'était la manifestation vivante, pour ainsi dire, de ces deux sentiments qui ne remplaçaient rien, mais qui s'ajoutaient aux peines existantes. Monique dépérissait. Marin était rongé par la douleur. Il avait espéré avec elle une vie austère, où l'expiation tiendrait sa place, mais où se trouveraient aussi des joies. Il s'était dit qu'aimant Monique, il en serait aimé et qu'il finirait un jour par reléguer dans l'ombre le souvenir du crime. Tant de choses s'effacent de la mémoire, pourquoi pas celle-là ? Il s'était trompé. Monique l'aimait, certes, elle l'aimait comme un dieu, mais elle avait peur de lui. Il le sentait et s'en désespérait. Ils se parlaient de moins en moins, trouvant qu'ils ne pouvaient rien se dire. Parfois, elle s'approchait de lui pendant qu'il était assis près du feu le soir, et posant ses mains amaigries sur les épaules de son mari, elle le regardait de ses yeux profonds qui demandaient grâce. Il la serrait alors follement sur son cœur navré. Elle se blottissait contre lui, espérant trouver un peu d'apaisement. Mais ils ne pouvaient exprimer leurs sentiments. Elle n'osait pas, et lui, gauche dans ses discours, croyait qu'il ne saurait pas dire les paroles nécessaires. L'été s'écoula ainsi, chaque jour emportant quelqu'une des espérances de Marin et quelqu'une des forces de Monique, tristes épaves de leurs rêves de bonheur. Elle souffrait tant que par moments elle avait envie d'en finir, puis le courage lui manquait. La crainte d'un esclandre la tourmentait aussi. Elle avait peur de faire parler d'elle après sa mort. Et surtout, elle pensait à Marin en se disant « Il croirait que je ne l'aimais pas. » Les tristes rafales d'automne soufflaient maintenant sur l'océan et Monique allait souvent s'asseoir sur les pierres au haut de la falaise. Depuis son retour, elle n'avait pas encore osé descendre jusqu'aux roches noires. Il lui semblait que là, quelque chose d'elle rester encore intacte dans toutes ses peines, se briserait comme le reste. C'est là qu'elle avait juré d'être fidèle. Oserait-elle fouler du pied la place où elle avait fait ce serment, qui devait être sitôt parjuré ? Une haute marée avait jeté au pied de la falaise d'énormes quantités de ce varech, qui est une des ressources du pays, et les femmes s'étaient empressées à marée basse d'aller le recueillir pour le mettre à l'abri de l'atteinte des vagues, afin de le prendre plus tard pour fumer les champs, suivant l'usage. « Est-ce que tu iras pas au varech ?» demanda Marin le soir même, pendant que la tempête rageait au dehors. « Moi, si tu veux. »« Il le faudrait, nous sommes pas riches. Il faut rien négliger de ce qui peut nous rapporter. » Vous nous épargniez quelque chose. J'irai, dit-elle. Il resta silencieux, fumant sa pipe devant les tisons décroissants. Ainsi que les étincelles fugitives, les joies espérées s'étaient éteintes les unes après les autres, et il n'en resterait bientôt plus que de la cendre. Et toi ? Demanda-t-elle au bout d'un instant. « Est-ce que tu viendras ? » Peut-être, oui, quand j'aurai fini de défouir nos pommes de terre. Il est temps de les rentrer, les pluies commencent et l'eau les perdrait. Le silence retomba sur eux pendant qu'au dehors, le fracas de l'ouragan ressemblait à celui du tonnerre. Le lendemain, l'eau devait se retirer dans l'après-midi, assez loin, pour permettre aux travailleurs d'accomplir leur besogne. Le vent avait diminué, mais la mer était ce que les marins appellent démontée, c'est-à-dire que les vagues n'arrivaient plus par houleuses espacées, mais qu'elles s'entrechoquaient follement les unes contre les autres, sans rythme et sans harmonie. Sous l'ombre des nuages poussés par un souffle rapide dans les hauteurs du ciel, beaucoup de bonnets blancs émaillaient les groupes de rochers quand Monique arriva à son tour. Elle s'était attardée, s'ingéniant à mille prétextes pour retarder le moment de descendre. Elle avait peur de ce qu'elle allait ressentir aux roches noires, et pourtant elle savait qu'elle ne pouvait songer à travailler ailleurs, cette place étant celle que la coutume assignait à la famille Bonamy pour la récolte du varech. Quelques femmes remontaient déjà. Elle les rencontra à mi-côte. Comme tu viens tard, lui dirent-elles. Et vous, comme vous vous en allez de bonne heure, répliqua la jeune femme avec un retour de son ancienne vivacité. Elle avait la fièvre et se fût volontiers querellée. C'est là que la mer est furieusement démontée. On ne sait si elle va ou si elle s'en vient, il fait pas bon. Toi qui n'es pas forte, tu devrais t'en retourner avec nous. J'aurai assez l'occasion de ne rien faire, répondit-elle en continuant à descendre. La mer était rude, tant mieux. Plus le travail serait difficile, moins elle aurait du temps pour songer aux choses qu'elle voulait oublier. Elle franchit, sans le regarder, l'endroit où elle avait fait son serment de fidélité, et marchant avec une incroyable adresse sur les pointes des rocs glissants, elle arriva aux endroits où la tempête de la nuit avait jeté par charretées les longs rubans bruns des algues et les mousses vertes des goémons. À grande brassée, sans souci de se mouiller, Monique saisit la récolte marine et fit une douzaine de voyages dans les rochers jusqu'à un endroit sûr. Elle mettait un entêtement enragé à épuiser son corps pour ne pas laisser à son âme le temps de souffrir. Elle dut s'arrêter cependant, les forces lui manquaient. Hors d'haleine, les jambes tremblantes, elle s'appuya contre une paroi de granit pour respirer et regarder la mer. Le ciel s'était embrasé de lueurs farouches. Les rayons du soleil qui allaient se coucher traversaient des masses énormes de vapeurs légères et floconneuses qui prenaient l'aspect d'un incendie formidable. Les nuées de braise blanchâtre s'écoulaient lentement sur le fond de pourpre incandescent. On dirait du sang, pensa Monique. Aussitôt, l'odieuse image, un instant chassée, réapparut, enveloppée dans le flamboiement des cieux. La mer semblait rouler du sang dans ses vagues sombres, frangées de roses, et tout ce sang était celui de la victime, sans doute. Éperdue, hallucinée, Monique s'avança pour voir de plus près. Une vague énorme qui se brisait sur un rocher à quelques mètres devant elle passa en pluie par-dessus l'obstacle et l'enveloppa de son écume rougeâtre. « Oh, le sang !» cria Monique en frissonnant sous l'eau glacée. Elle regarda la mer avec cet air de défi qu'elle jetait aux choses plus fortes qu'elle, car la vie avait pu la briser mais ne l'avait pas ployée. Une autre vague déferla avec fracas, puis une seconde, et l'eau clapotante envahit le creux où elle se trouvait. Si vous me voulez, prenez-moi, dit Monique au flot furieux, mais je me défendrai. Elle voyait le danger, elle en comprenait l'étendue, elle savait qu'elle pouvait fuir, et elle ne le voulait pas. Une fois de plus, elle bravait sa destinée, mais cette fois, sa destinée avait des forces matérielles visibles et palpables. Tous les bonnets blancs avaient disparu. En remontant bien avant son heure, la mère les avait chassés devant elle. On n'avait point songé à Monique. Elle, cependant, faisait face aux vagues qui montaient à l'assaut du rempart qui l'entourait. Elle les laissait crouler sur elle. Trempée jusqu'aux os, aveuglée par l'écume, elle reculait un peu de temps en temps pour prolonger la lutte. Elle n'avait pas une résolution bien arrêtée de mourir, mais elle sentait confusément que si elle mourait, ce serait pour le mieux. L'instinct de la conservation, cependant, ne l'abandonnait pas, et après un choc qu'il avait collé contre quelques roches toutes saignantes, égratignées par les aspérités de la pierre, elle se relevait d'un air hautain comme pour dire au flot « Je suis encore vivante !» Dans cette bataille insensée, elle éprouvait une joie intense, la première qu'elle eût ressentie depuis sa chute. Elle luttait sans trop de pertes. Elle serait broyée ou emportée, mais au moins cette fois, elle se serait bien défendue. Elle, qui n'avait su résister ni à la séduction ni au désir du meurtre, elle tenait tête à l'océan. C'était bien. Et cela la relevait à ses yeux. Une masse d'eau énorme s'enleva à 20 pieds au-dessus, en haut d'une gerbe d'écume, et s'abattit sur le rocher qui soutenait Monique. Cette fois, elle perdit pied et sentit que le remous l'entraînait. Elle s'arc-bouta de son mieux, et avec une sorte de triomphe féroce sur elle-même, « Souffre encore !» se dit-elle. C'est ainsi qu'on expie. Soudain, elle aperçut, descendant la falaise, comme s'il eût eu des ailes, Marin, illuminé par les reflets d'incendie du couchant. Il accourait pour la sauver. Elle sentit son âme se fondre, et à travers les rochers, jusqu'à mi-jambe dans l'eau bouillonnante, elle se dirigea en chancelant, vers lui. Les vagues, dans ce moment-là, frappaient ailleurs des coups qui faisaient trembler le sol. Les mers démontées ont de ces lubies. L'océan avait renoncé à se battre corps à corps avec le pauvre être endolori qui maintenant voulait vivre. Mais Monique se mouvait maladroitement dans sa lourde jupe de laine saturée d'eau. Elle avançait à peine de quelques pas en une minute, et tout à l'heure les gerbes d'eau allaient revenir l'écraser. Marin accourut en trébuchant au travers des obstacles, enleva sa femme dans ses bras et voulut retourner sur ses pas. Une lame énorme s'abattit tout d'une masse à l'endroit où ils étaient tous deux, un millième de seconde auparavant. Ils n'en reçurent que les éclaboussures assez fortes pour les renverser, tous les deux, mais la mort avait renoncé à eux pour cette fois. « Mais tu es folle !» dit Marin en déposant sa femme à terre, quand ils furent à l'abri du danger. Monique regarda autour d'elle et vit qu'ils étaient sur la pierre du serment. « Mais tu ne veux donc pas que je meure ?» lui répondit-elle. Il la saisit avec frénésie. « Toi, mais tu es ma vie, mon tout. Je veux que tu sois heureuse. Ou sans cela, c'est moi qui vais m'en retourner là. » Et il indiquait l'endroit maintenant envahi par les eaux où ils avaient failli périr tout à l'heure. « Et tu m'aimes autant que s'il n'était rien arrivé. Je ne sais pas comment je t'aurais aimé, répondit Marin, en levant sa main vers le ciel qui flamboyait comme une apothéose. Mais je sais que je t'aime, tant qu'un homme peut aimer. Tu m'as donc pardonné? Mais je t'ai toujours pardonné. Elle l'attira à elle et lui donna un long baiser de passion sauvage. « Ramène-moi chez nous, » dit-elle. « À présent, nous allons être heureux. » Elle ôta sa longue jupe trempée d'eau qui l'empêchait de marcher et, vêtue d'un petit simple jupon court, elle gravit la falaise près de son mari. « Mais tu es tout en sang !» lui dit-il tout à coup, s'en apercevant pour la première fois. « Ça ne fait rien, » répliqua-t-elle avec un sourire qu'il ne lui avait jamais connu. « C'est le mien. » Ils rentrèrent. Le feu flamba haut dans la cheminée. Marin déshabilla Monique avec les soins tendres et gauches qu'il eut apportés à la toilette d'un nouveau-né, et il la mit dans le lit en l'entourant de précautions infinies. Elle lui souriait d'un air heureux, et c'était l'ancienne Monique qui était revenue tant elle avait sur son visage de jeunesse et de lumière. Débordant d'une joie qu'il avait cru ne jamais connaître, il se pencha sur elle et la regarda avec ivresse en lui disant « Oh, ma Monique, c'est seulement d'aujourd'hui que je sens que tu es ma vraie femme. » Chapitre 24. Lorsque Marin ouvrit les yeux, la pluie tombait lourdement au dehors. Il l'écouta clapoter sur le chemin, puis, mieux réveillé, il se souvint de ce qui s'était passé la veille et se tourna avec une sorte d'inquiétude vers Monique. Elle dormait, la bouche entrouverte, les joues très rouges, un bras hors du lit comme quelqu'un qui s'est débattu avec ses rêves. Il toucha cette main, elle était brûlante. Il effleura la joue, on eût dit un charbon ardent. Elle s'éveilla et dit d'une voix rauque « J'ai soif !» Il fut debout aussitôt et lui donna à boire. Elle trempa ses lèvres dans le verre et dit « Oh, l'eau est amère !» Marin, surpris, goûta l'eau qui n'avait aucune amertume. Il voulut questionner Monique, mais elle s'était déjà rendormie. Après l'avoir contemplée quelques instants, Marin acheva de se vêtir et courut chez Clémence. « Elle doit avoir attrapé du mal à la mer, » dit-il en terminant son explication. « Il y avait de quoi ?» répliqua la vieille femme. Mais sans s'épancher en discours inutiles, elle suivit son gendre. Monique s'était réveillée pendant leur absence. Elle les accueillit avec le sourire de la veille, si différent de son expression habituelle. « Mais elle a l'air très bien, » dit Clémence. « J'ai essayé de me lever, je ne peux pas, » répondit la jeune femme, avec une expression de contentement extraordinaire. « C'est la fatigue d'hier, mais ce sera rien du tout. Demain n'y paraîtra plus. » La pluie empêchait tout travail au dehors. Marin resta près de sa femme, dont il pressait la main de temps en temps. Ils se regardaient en souriant et n'avaient pas besoin de se parler. Ne s'étaient-ils pas tout dit dans leur court entretien la veille, sur la pierre du serment? Clémence, à demi rassurée, les servit pendant tout le jour et se retira le soir sur les instances de Marin qui lui conseilla de dormir tranquille. Monique était visiblement très oppressée, mais elle ne se plaignait de rien, déclarant que jamais de sa vie elle n'avait été si heureuse ni si bien, et son visage ne démentait pas ses paroles. Dans la nuit, elle eut un peu de délire, mais c'était un délire paisible, presque joyeux, où elle voyait les souvenirs de sa petite enfance. Elle semblait avoir laissé dans les vagues couleurs de sang les peines et les remords de sa vie récente. Marin, cependant très effrayé, alla dès le lendemain matin trouver M. Mahot qui vint voir la malade. « Oh, il faut aller le chercher, le docteur, » dit-il. « Je suis pas grand clair, mais il me paraît que ceci ressemble beaucoup à une fluxion de poitrine. » Et nous ne sommes pas de force à soigner ces maladies-là sans l'aide d'un médecin. » Monique avait entendu, non ces paroles, mais le ton d'avertissement qui les accompagnait. « Monsieur Mahot, » dit-elle, « vous reviendrez quand le médecin sera parti, n'est-ce pas ?»«
Certainement, ma belle enfant, si ça peut vous faire plaisir. »«
Oh, je vous en prie bien, » insista-t-elle. Le médecin arriva dans la soirée. M. Mahot ne s'était pas trompé. Monique avait une fluxion de poitrine d'une intensité peu ordinaire. Un traitement énergique fut ordonné et appliqué aussitôt, autant que faire se pouvait dans un endroit éloigné des villes. À peine le cabriolet du docteur avait-il disparu au tournant de la route, que Monique écarta sa mère sous quelque prétexte, puis fit signe à son mari de venir auprès d'elle. « Je suis très malade, n'est-ce pas ?» lui dit-elle avec cette expression de tendresse joyeuse et confiante qu'elle avait rapportée des Roches Noires. « Mais oui, tu es malade, c'est sûr, » répondit le pauvre garçon embarrassé. On lui avait bien recommandé de cacher à la malade la gravité de son état, et lui qui... même pour épargner un chagrin à Monique, n'avait jamais pu venir à bout de mentir, se sentait bien maladroit. « Eh bien, écoute, j'ai besoin de voir M. Mahot et de lui parler toute seule. »«
Encore un secret ?» fit Marin en fronçant le sourcil.
« Oh non, 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 quand je dis toute seule, ça veut dire avec toi. » « Va me chercher, M. Mahot, tout de suite. Il m'a promis de revenir et il viendra. Dépêche-toi. »
Marin hésita un moment, puis partit en courant. Un quart d'heure après, il ramenait le digne homme.
« Eh bien, Monique, qu'est-ce que tu me veux ?» fit celui-ci, ramené à ses vieilles habitudes par la vue du joli visage redevenu enfantin et rose, sous l'animation de la fièvre.
Je veux vous dire quelque chose, monsieur le maire. Je vous prie de vous asseoir auprès de mon lit pour l'entendre.
Monsieur Mahot s'assit un peu ému. Marin se tint debout contre le lit, entre eux. La voix de Monique était forte, bien qu'un peu voilée. Elle haletait en parlant, mais elle ne semblait pas souffrir, et en vérité, elle souffrait peu. « Vous savez, monsieur le maire, » dit-elle en fixant ses yeux bleus sur ceux du fonctionnaire, « que j'ai été à Rouen pour la protection, par la protection de votre bonté. » Il approuva d'un signe de tête.
Je ne sais pas si vous avez su qu'il était arrivé un malheur dans la maison où vous m'avez fait entrer.
Je le sais, répondit Monsieur Mahot. Je sais aussi qu'on t'a accusé, qu'on t'a relâché, parce que l'idée de t'accuser était par trop absurde. Est-ce cela que tu voulais me dire ?
Monique avait rougi, puis pâli. Elle tourna vers son mari un regard suppliant, auquel il répondit par un geste d'approbation. Il avait compris ce qu'elle voulait, et ne pouvait le trouver mauvais, car il la savait bien malade, plus qu'elle ne le croyait elle-même. « Eh bien, monsieur le maire, je vais mourir, et je n'en suis pas fâché, car après ce que vous allez apprendre, vous me regarderiez d'un bien mauvais œil. On n'a pas trouvé la personne qui avait fait le coup ?»«
Non, eh bien. »
« C'était moi !» dit Monique. Et elle retomba toute blanche sur son oreiller.
« Toi ?»
s'écria Mao, bouleversé, se demandant si la malade n'avait pas une nouvelle attaque de délire. « Oui, monsieur le maire, c'était moi. »«
Eh bon Dieu, comment, à quel propos, une enfant comme toi ?»
Monique tourna ses yeux brillants de fièvre vers son mari, et il comprit qu'une partie du douloureux secret resterait entre eux. « Elle m'avait réprimandé, » dit la jeune fille. « J'étais orgueilleuse et violente, la colère m'a aveuglée, et je l'ai frappée. Depuis, monsieur le maire, je n'ai plus eu un instant de repos. »
« Mais pourquoi m'as-tu dit ça ? Puisqu'on t'avait relâché, il me semble que tu pouvais bien garder ton secret pour toi. »
« Oui, monsieur le maire, mais on a vu, n'est-ce pas, des innocents qui étaient condamnés pour des coupables. J'ai lu ça dans les livres. J'ai pensé que si après que je ne serai plus là pour le dire, vous appreniez qu'on accuse quelqu'un de ce qui a été mon crime à moi, vous pourriez justifier celui qui m'aurait fait pas le mal. »
Monsieur Mao écoutait, interdit, abasourdi de ce qu'il venait d'entendre, et pris malgré lui d'admiration pour la conduite de Monique.
« Alors c'est une déclaration que tu me fais. Veux-tu la signer ?»«
S'il vous plaît, oh, monsieur le maire, seulement je vous demanderai de n'en parler à personne à cause de Marin, qui en aurait de la honte et qui ne l'a pas mérité. Ce serait seulement dans le cas que je vous ai dit. »
« Sois tranquille, tu peux compter sur moi. »«
Vous le saviez ?» ajouta Monsieur Mao en s'adressant à Marin.
« Elle n'a pas voulu m'épouser avant de me le dire, » répondit celui-ci.
Le maire s'était levé. Il regarda un instant la jeune criminelle, dont le visage était maintenant si calme et si pur. Puis, poussé par un mouvement irrésistible, il posa sa main droite sur le front brûlant.
Pauvre enfant, dit-il, votre faute est grande, mais vous l'avez expiée.
Oh oui, répondit-elle simplement, ce n'est ni la maladie ni la mort qui sont les plus mauvaises. Le lendemain, de grand matin, M. Mao présenta à la jeune femme une rédaction bien simple, tout officielle, de leur entretien de la veille. Elle la signa d'une main ferme, et Marin mit auprès de celle-là sa signature qui tremblait.
« Et maintenant que vous avez la conscience en paix, dit Mao, on va vous guérir. »«
Oh, ce sera comme le bon Dieu voudra. » répondit Monique. Elle sentait ses forces baisser très vite, mais sans secousse. Dans ce corps usé par le chagrin, la maladie avait trop beau jeu. Marin la regardait d'un air sombre pendant qu'elle dormait, souriant quand elle pouvait le voir. Le soir du quatrième jour, elle lui fit signe de venir tout près d'elle.
Nous aurions été bien heureux, tu crois?
Lui dit-elle tout bas.
Oh oui, bien heureux. Eh bien, c'est ce qui te trompe. Nous sommes heureux à présent parce que je m'en vais. Mais si j'avais dû vivre, ça aurait recommencé tout comme auparavant. Et nous n'aurions eu que de bons moments, mais jamais de repos. Je t'assure qu'il vaut mieux que je m'en aille.
Et moi, murmura Marin, enfin convaincu par les larmes, qu'est-ce que je deviendrai? Elle le regarda tristement de ses yeux où la vie décroissait visiblement. Toi, pauvre, pauvre marin, tu auras bien de la peine. Mais si je n'avais pas été ce que je suis, je ne t'aurais jamais aimé comme je t'aime à présent. Elle mourut à l'aube, après une courte agonie pendant laquelle elle ne reconnut personne. Elle quitta la vie sans avoir cette conscience de la douleur de ceux qui conservent leur lucidité jusqu'au bout. On l'enterra dans la tombe de Victoire. Marin avait ôté lui-même le rosier blanc avec sa motte de terre et le replaça seul quand tout fut fini. Il ne permit à aucune main profane de toucher l'arbuste deux fois sacré, après quoi il descendit aux roches noires et y resta jusqu'à la nuit tombée. Il travailla à son champ et à son jardin comme dans le temps où il était garçon. On le voit encore plus souvent qu'autrefois soigner le rosier qui recouvre tout ce qu'il a aimé. Monsieur Mao n'a pas eu à produire la déclaration de Monique, car jamais rien n'est venu mettre la justice sur les traces de l'auteur du mystérieux crime de Rouen.